Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 10 mai 1933 dans l'état d'Indiana en Amérique. Les immenses grilles de la prison de Michigan City viennent de se refermer. Dehors, sous l'œil des sentinelles perchées sur un mirador, John Dillinger, 29 ans, se tient debout. Le matricule 14395 a le visage émacié, le front dégarni et plusieurs dents en moins. Mais il est libre, enfin. Cela faisait 10 ans que ce fils d'épicier natif d'Indianapolis croupissait derrière les barreaux pour une petite histoire de vol. John Dillinger est libre, mais le pays qu'il redécouvre n'a rien de celui qu'il avait quitté. Depuis son incarcération, le krach de 1929 a plongé l'Amérique dans la Grande Dépression, une période de récession économique sans précédent. Des millions d'ouvriers ont perdu leur travail et vivent dans la misère. Le peuple crève de faim. Dans ce contexte, difficile pour Johnny de trouver un gagne-pain respectable et de se racheter une conduite. De toute façon, il a d'autres plans. En prison, il s'est fait pas mal d'amis, des truands aguerris qui deviendront bientôt ses complices. Car John Dillinger est habité par la rage. Il veut déclarer la guerre au pouvoir à tous ces cols blancs corrompus qui ont eu le culot de le qualifier de hors-la-loi. Alors Johnny ne perd pas de temps. Dans les semaines qui suivent sa libération, il organise des casses dans plusieurs épiceries de la région, mais bientôt, il s'attaque à plus gros. Tout l'été, c'est la même scène qui se répète. Une Dodge bleue se garde discrètement non loin d'une banque, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, des hommes font irruption et pointent leurs revolvers sur les employés au cri de « Hold up !» Les mains en l'air, personne ne bouge. John Dillinger bondit derrière le comptoir, l'arme à la main. Il presse le caissier de transférer les fonds dans un sac. Et 2 minutes plus tard, s'échappe avec des dizaines de liasses de billets, montant du butin plusieurs milliers de dollars. Dans les bureaux de police, les shérifs s'arrachent les cheveux. Pas un jour ne passe sans que les journaux ne fassent leur une sur des affaires de braquage ou de kidnapping. Les autorités sont mises à mal. On pointe leur incapacité à mettre les gangsters sous les verrous. Car en cette période de dépression, Dillinger n'est pas le seul à avoir compris que le crime était la seule activité lucrative. Au niveau fédéral, on veut sévir. À la tête du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, John Edgar Hoover prend les opérations en main. Il répertorie les criminels et établit une liste de bandits désignés ennemis publics. Dans les rues, on fait placarder les visages des bandits qui sont « wanted, dead or alive ». À ceux qui arrêteront les criminels recherchés, morts ou vifs, on promet une récompense. Mais pas de quoi effrayer Johnny. Il continue ses activités criminelles, se fait prendre, s'échappe dans un bain de sang et recommence encore et encore. En fuite perpétuelle, il braque des banques dans le Wisconsin, l'Iowa, le Dakota et d'autres États encore. Si bien que le jour de son 31e anniversaire, John Dillinger devient officiellement l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. La chasse à l'homme est lancée. Malgré le danger, il arpente toujours les rues de Chicago. Un mois plus tard, le regard dans l'ombre de son Borsalino. Ce soir-là, Johnny aurait bien besoin de se détendre. Alors, avec Polly, sa maîtresse du moment, et l'horlogeuse, une certaine Anna Sage, il s'octroie une soirée au cinéma. Nous sommes le 22 juillet 1934, il est 21h, et le trio s'engouffre dans le Biograph Theater pour s'installer sereinement dans le creux des fauteuils rouges. À l'affiche ce soir, Manhattan Melodrama, ce long métrage est de circonstance, puisque la superstar d'Hollywood, Clark Gable, y incarne Blackie, un gangster sans foi ni loi. Mais alors que Dillinger s'amuse de la situation en se croyant invincible, aux abords du cinéma, les hommes d'Edgar Hoover s'activent. Quelques jours plus tôt, le bureau a été contacté par une femme au fort accent d'Europe de l'Est. En échange d'un permis de séjour sur le sol américain, elle a promis de livrer des informations capitales sur l'homme le plus recherché du pays. Cette femme, c'est Anna Sage, la logeuse de Dillinger. Quand elle a vu se présenter chez elle un homme qui disait s'appeler Jimmy Lawrence, elle n'y a pas cru une seule seconde. Johnny a beau être passé sur le billard pour modifier son apparence, ses traits sont reconnaissables. Sous le coup d'un arrêté d'expulsion, Anna décide de rencarder les fédéraux. À 22h30, le trio sort du cinéma. Bras dessus, Polly et Johnny ont le sourire aux lèvres. Anna, elle, avance anxieusement. Les G-Men sont prêts. Quand l'un d'eux allume un cigare, c'est le signal. En une fraction de seconde, John Dillinger est encerclé par une dizaine d'agents du FBI. Il dégaine le Colt 38 qu'il porte à la ceinture pour ouvrir le feu, mais c'est trop tard. Les policiers ont tiré plus vite. Touché par plusieurs balles, John Dillinger s'effondre sur le macadam. C'est dans une mare de sang que la vie de l'ennemi public numéro 1 s'achève ce jour de juillet 1934. Mais son destin rocambolesque en inspire plus d'un, à commencer par les cinéastes. 10 ans après la mort de John Dillinger, un premier biopic est réalisé aux États-Unis pour le plus grand plaisir des amateurs de polar. À ce jour, une demi-douzaine de films ont été consacrés au bandit le plus célèbre de la Grande Dépression. La dernière version en date est signée de Michael Mann. Dans Public Enemies, sorti en 2009, c'est Johnny Depp qui interprète le gangster le plus célèbre de la Grande Dépression.
Nous pourchassons des tueurs implacables.
J'ai une idée, monsieur le président. Si on jouait à la roulette.
Cet argent est à vous, monsieur?
Oui.
C'est la banque qu'on vient braquer, pas vous. Rangez-moi ça.
Tu sais que tout le pays pense que tu es un héros.
Ça devient dur de dévaliser des banques.
On prend trop de bon temps aujourd'hui pour penser à demain.
Ouais, pourtant tu devrais.
Et il se pourrait bien que la suite des événements inspire d'autres réalisateurs. En 2019, la presse américaine annonce que le corps de John Dillinger va être exhumé. Car depuis sa mort, les rumeurs vont bon train. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que l'homme abattu par les agents fédéraux n'était pas John Dillinger, mais un sosie. En 1963, le FBI aurait même reçu plusieurs lettres signées du gangster. La suite au prochain épisode.
Oh non Stéphane, vous pouvez pas me faire ça.
Europe 1,
historiquement vôtre.